Business, le luxe by BFM Business. Audrey Maubert.
Le luxe s'installe sur BFM Business, un site, une émission exclusive, intemporelle, mythique, responsable et déculpabilisée. C'est Iconic Business. Le bon et l'exceptionnel sont son quotidien, toujours à la recherche du parfait accord. Cépage et millésime. Philippe Forbrac, président de l'Union de la Sommellerie Française, est l'invité d'Iconic Business. Aux avant-postes de la mode et des matières qui seront bientôt arborées, le salon Première Vision, un immense showroom où les grandes maisons viennent dénicher les innovations. Reportage à suivre avec Eva Jaco. Les désirables de la semaine, toute l'actu du luxe, tout ce qu'on a aimé et sélectionné. Rouvena, un joyeux second empire qui fait un comeback éco-responsable. Sa présidente, Marie Berthelon, sera avec nous. Et bien sûr, l'iconique capsule, tendance et phénomène sur les réseaux sociaux. Un pop-up store Dior sculpté dans la glace, c'est en Chine. C'est Iconic Business, bienvenue. Un CV à faire pâlir, des distinctions en série. Philippe Forbrac, président de l'Union de la Sommellerie Française. Bonjour.
Bonjour, Audrey.
Merci d'être avec nous. Meilleur sommelier du monde, 1992. Mof Honoris Causa, 2015. Meilleur sommelier de France, aussi restaurateur. Vous êtes un homme du vin, c'est comme ça qu'on peut vous appeler. C'est une passion plus qu'un métier.
C'est une passion absolument dont j'ai fait mon métier, ce qui est quand même juste
incroyable.
Et puis voilà, une vraie récompense, j'allais dire, d'un déclenchement d'envie que j'ai eu il y a très longtemps. Parce que la première fois que j'ai goûté un vin, mon père m'avait autorisé à goûter un fond de vin. Franchement, je devais avoir une quinzaine d'années. Et c'était un muscat de Baume de Venise, donc un vin doux avec ses saveurs extrêmement fruitées et très, très aguichantes, très avenantes. J'avais trouvé ça juste incroyable en me disant « Ah, c'est ça le vin finalement ?» Et donc, voilà. Puis après, j'ai fait des études de cuisinier. Et c'est en cuisinant que je me suis dit, mais bon, ok, je cuisine, mais est-ce que le vin influence finalement la perception que je vais avoir du plat que je suis en train de réaliser? Et ça, cette question me titillait.
Et donc, c'est une question qui vous a accompagné et qui vous accompagne
absolument,
encore.
Et qui m'accompagne encore.
Bon, j'ai besoin d'une remise à niveau. Sommelier, c'est quoi? C'est la connaissance, la culture du vin, les régions, les cépages, les problématiques actuelles, c'est la maîtrise de l'art de déguster, c'est la relation client, c'est quoi exactement?
Le sommelier, c'est finalement une personnalité qui est au centre d'une filière, qui comprend effectivement les productions jusqu'aux consommateurs, en passant par les œnologues, les éleveurs, les metteurs en marché, les distributeurs, etc., etc. Et donc finalement, ce maillon important, qui a été défini en tant que tel par l'OIV, qui est l'Organisme International du Vin, qui fait force de loi dans les définitions, finalement, on a réussi il y a quelques années à faire protéger le mot sommelier. Parce que sommelier, pour nous, c'est très connu et c'est très identifiable. Dans certains pays, ce n'est pas le cas.
Ouais, tout à fait.
C'est juste un serveur ou quelqu'un qui s'occupe de certaines activités au niveau du restaurant, etc. Nous, c'est sommelier et on sait à quoi ça correspond. Donc, la définition, c'est la personne qui s'occupe au sein d'un établissement de restauration ou de cave, de la connaissance du service, de la mise en valeur du vin, finalement, en impliquant le sourcing, la gestion, le conseil, la conservation, enfin, etc. Tous ces éléments-là. Dans l'univers du sommelier, il y a le vin, iconique, s'il en est, pas que. Les spiritueux, les bières, les sakés, les cidres, les eaux, les cafés, les thés, tout ça font partie de l'univers du sommelier.
Oui, un univers très large. Et justement, on va le voir avec ce fameux concours du meilleur sommelier du monde. On va balayer avec Nathan Cocampo les épreuves. 4000 spectateurs, 68 candidats, 65 pays, 3 finalistes, évidemment un grand vainqueur. Nathan, le concours du meilleur sommelier du monde s'est tenu mi-février et c'était à nouveau un rendez-vous de haute volée.
Oui, Audrey, champion du monde cette année, le laiton Raymond Thompson, petit détail qui a son importance et qui montre bien l'ampleur que prend de plus en plus ce concours. La Lettonie n'est pas un pays de vigne avec une culture autour du vin comme la France. En 1969, lors de la première année, il n'y avait d'ailleurs que 7 pays représentés. Aujourd'hui, il y en a 65. Alors, pour décrocher le célèbre titre tous les 3 ans, un vrai parcours du combattant entre questions d'actualité, exercices pratiques dans une salle de restaurant reconstituée avec de faux clients et dégustation à l'aveugle. Il y en avait pour tous les goûts. Les candidats devaient aussi ouvrir une bouteille de vin abîmé ou encore estimer le prix de n'importe quelle bouteille dans le monde. Des candidats jugés par des anciens champions du monde. Des épreuves chronométrées, rigoureuses sur tout type d'alcool et non plus uniquement le vin. Comme celle, l'épreuve de retrouver les éléments manquants d'un cocktail.
Et une nouveauté, Nathan, cette année, une épreuve qui sort un peu du cadre classique, si on peut dire, de ce concours.
Les candidats avaient 2 minutes pour identifier 5 boissons non alcoolisées, puis ils devaient imaginer en 3 minutes un menu vegan qui s'associe bien avec. Et pour ajouter un peu plus de difficultés, l'épreuve devait se faire dans une langue étrangère. Alors voilà, l'idée étant de s'adapter aussi aux évolutions de la société. Le vainqueur de ce concours prestigieux a évidemment l'assurance d'une belle carrière par la suite dans les meilleurs établissements du monde. Jusqu'à présent, 6 sommeliers français ont décroché le titre. Alors même si la France n'a pas gagné le concours cette année, un mot de Pascaline Le Pelletier. Langevin a terminé à une belle 4e place, toujours pas de femme championne du monde, mais cela ne saurait tarder.
On est avec un des rares, justement, un champion du monde. Philippe Forbach, ça veut dire que quelles sont les qualités à avoir pour accéder à cette victoire? C'est un vrai décathlon.
C'est un vrai exercice sportif de très haut niveau, d'excellence, et qui fait appel à la fois des qualités de rigueur, d'organisation et de formation. Et finalement, on s'aperçoit que pour gagner, ce n'est pas suffisant. Il y a l'expérience, il y a aussi l'adaptabilité instantanée à la compréhension de la question. Et tout ça, c'est la magie de la compétition. Franchement, les Pascaline Crème 4e, c'est juste une sommelière d'exception. Mm-hmm. Et on a travaillé avec elle pendant toute cette préparation parce que j'étais moi le président du comité d'organisation. Mais vous l'avez rappelé en introduction, je suis le président de l'Union de la Sommelier Française. Donc je préparais cette candidate. C'est pas moi qui m'occupe des épreuves, donc j'étais très libre de pouvoir la préparer autant que faire se peut. Et donc, du coup, elle a vraiment beaucoup de talent. C'est sa première participation. Elle arrive quasiment au pied du podium. C'est déjà exceptionnel comme place, 4e sur le monde. Il y a 55 000 membres dans l'association de la sommelière internationale.
C'est devenu démentiel entre les pays représentés, absolument, les candidats. Mm-hmm. On a vraiment changé d'univers.
Absolument. Ça a pris une dimension extraordinaire et du coup un rayonnement aussi extraordinaire. Le concours et la convocation de faire bien sûr émerger un gagnant ou une gagnante. Raymond Thompson, le laiton, magnifique. Mais bien entendu, la victoire, elle est aussi collective. C'est faire parler de notre métier, c'est susciter des vocations. Mm-hmm. On a invité pour cette belle finale qui a réuni plus de 4000 personnes, effectivement, 500 jeunes élèves des Écoles Hauteurs de France. Pour leur faire vivre cette expérience. Il y avait des gens de tous les univers qui étaient là, y compris pas des gens du métier qui étaient présents à cette finale. Ça doit susciter effectivement un certain engouement. On l'attend comme ça, en tout cas, on l'espère.
Certaines vocations. Dans votre parcours, je voyais que vous avez été le sommelier du Concorde. Vous sélectionniez les vins de cette cave inédite. Comment on aborde cette mission et comment vous envisagez-vous votre cave idéale? Est-ce que vous avez votre cave idéale? Est-ce que vous êtes arrivé à ce Graal?
Alors, juste une petite parenthèse sur le Concorde, parce qu'elle est quand même extrêmement incroyable, pertinente. C'est incroyable d'être le sommelier du ciel, comme l'avait dit un de vos confrères à l'époque, et d'être dans le Concorde de temps en temps pour pouvoir faire goûter et ressentir les réactions des gens qui sont très différentes. En altitude, on a un dessèchement de l'air. Alors, sur le Concorde, c'est moins le cas que sur d'autres types d'avions, parce que le vol est plus court. Mais dans un vol classique Paris-New York, même si c'est 7 ou 8 heures, entre la collation du début et la collation de la fin, on n'a pas le même palais, parce que le palais est beaucoup plus sec. Voilà. Il y a des sensations comme ça, d'adaptabilité, mais dont il faut tenir compte, parce que les paramètres sont super importants. Ensuite, la cave idéale, elle est vraiment personnelle, la cave idéale. Il faut qu'elle corresponde à son mode de vie, à ses envies.
Il faut des grands noms et des pépites, des découvertes.
Absolument.
Comment ça se constitue au fil d'une vie, j'imagine, déjà?
D'abord, c'est le parcours d'une vie, une cave, absolument. Et c'est souvent une cave que l'on fait en partie pour soi, et c'est légitime, mais aussi souvent comme une transmission, un héritage. Finalement, il y a toujours la règle quasiment des 80-20. Il y a 80% des vins qu'on a là, et en volume ou en nombre de références, qu'on ne consomme pas souvent parce qu'ils sont là vraiment pour alimenter des moments d'exception. Mm-hmm. Et il y a 20% de vins qui ont une rotation plus rapide, comme on dit dans notre métier, mais c'est la même chose pour un particulier. Des vins sympas,
c'est
des vins
copains. C'est encore le cas aujourd'hui, parce qu'on boit moins, mais mieux. Ce découpage est encore vrai?
Ce découpage est encore vrai pour ceux qui ont une cave. Ce qui est sûr maintenant, c'est qu'on a moins de cave qu'avant, pour des raisons à la fois d'immeubles, de construction, de place, notamment dans les grandes villes. Également de sécurité, parce que malheureusement, beaucoup de caves sont visitées, comme on dit. Ouais. Et donc, il y a des gens qui hésitent maintenant à investir dans les caves, alors ils font stocker leur vin dans des caves sécurisées. Et puis, parce qu'il faut savoir aussi quand même que la grande majorité, mais quand je dis la grande majorité, c'est 90% des vins sont achetés et sont bu quasiment dans les 24 heures.
Oui.
Il faut quand même savoir comme perspective.
On ne conserve plus de la même manière.
On va acheter chez le Cavis du coin ou dans le rayon qui va bien à côté, etc. Ou on rentre de vacances avec un carton, finalement, on le boit très vite. Donc, il y a des vins, les vins sont peu conservés. Mais 10% sur le volume produit, notamment en France, et sur le volume consommé, ça représente quand même de nombreuses bouteilles.
Est-ce que je vous fâche si je vous demande le meilleur vin en France ? Est-ce que vous arrivez
vous me fâchez
à...
pas, vous allez peut-être me fâcher avec certaines personnes, mais bon, c'est très, très compliqué. On peut avoir un affect particulier en fonction peut-être aussi des moments de sa vie. Moi, j'ai commencé, par exemple, je suis né à Marseille, j'ai grandi en Provence et dans le Rhône et dans les Alpes. Mes premiers vins, et j'ai toujours beaucoup d'affection, j'ai parlé tout à l'heure du Muscat Bum de Venise, mais le Châteauneuf du Pape, les vins de Côte-Rôtie, les Hermitages, les grands vins de la vallée du Rhône, par exemple, c'était des vins qui me parlaient. Autant que les Bandol ou que les vins de Palette à côté d'Aix-en-Provence, qui sont pour moi des très grands vins. Après, mon goût a évolué vers le Bordelais, et aussi, c'est toutes les pépites de Bordelais sont juste incroyables, avec un petit affect particulier pour les vins de Pauillac, par exemple, les Saint-Julien, ou encore les Pommerol ou les Saint-Émilion. Et les graves aussi, si j'oublie ça, les graves, beaucoup les graves. Mais voilà, et les Pessac-Léognan en particulier. Mais maintenant, les Bourgognes m'interpellent. Je trouve qu'en Alsace, on a des blancs qui sont juste devenus, même des rouges aussi, des Pinot Noir d'Alsace qui sont juste incroyables. Et puis on découvre aussi au fil du temps, parce qu'ils ont aussi beaucoup évolué en qualité, les vins des autres régions, comme on disait avant, le Sud-Ouest, le Languedoc-Roussillon, juste incroyable pays de grands vins importants, la Corse, enfin, etc. J'ai presque cité tout le monde finalement, mais c'est la vérité, on est gâtés.
Chaque semaine dans Iconic Business, les iconiques de l'invité. C'est en somme ce que le luxe est pour Philippe Forbrack. Évidemment, on retrouve sur ce top 3 une bouteille et pas n'importe laquelle.
C'est vrai. Romanée Conti, je crois que c'est ce que j'ai finalement confié.
Oui,
c'est ça. Oui, c'est pour moi la bouteille de vin la plus mythique qui soit dans le monde. J'ai eu la chance d'en goûter quelques fois. C'est le vin qui m'a récemment donné le plus de frissons. Parce que c'est pas, le sommelier n'est pas juste là pour déguster, décrire la robe scintillante, limpide, etc. Les parfums de fruits noirs, de violettes qu'on peut avoir sur un vin de Bonhomme-Manet, et en particulier Romanée Conti, et d'évoquer la texture et le soyeux en bouche. Mais quand, au moment donné, les grands vins, on s'en aperçoit quand finalement on ne se sent plus de parler, d'exprimer des mots qui ne sont pas finalement à la hauteur de son émotion.
On parlait de l'accord mets et vins, et évidemment, dans votre top 3, dans vos iconiques, un dîner chez Guy Savoie, qui n'est autre que le meilleur restaurant du monde.
Tant
ça va
faire.
Avec.
Oui, absolument. Je viens de parler de Guy, parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et j'ai la chance de le connaître depuis un certain temps. Mais quand on est dans un endroit comme ça, il y a tout. Le lieu, déjà, impose dans sa magie, mais n'impose pas de retenue, quelque part. On s'y sent bien. On n'est pas impressionné par le lieu, on est juste enthousiasmé par le cadre. Ensuite, la magie des gens qui travaillent chez Guy Savoie depuis longtemps, la fidélité de ses équipes, notamment son sommelier Sylvain Nicolas, son maître d'hôtel iconique berlinois, qui a un accent juste incroyable, et toutes les équipes de façon générale. Et puis, la cuisine, qui est faite de produits précis, équilibrés, de saveurs dont on se souvient, la fameuse soupe aux artichauts, truffes et parmesan avec la petite brioche feuilletée à truffes, c'est juste quelque chose qui, moi, me parle depuis longtemps, qui est très difficile d'ailleurs à associer avec un vin, parce que l'artichaut, c'est pas simple, mais avec des grands blancs un peu scintillants, notamment de la vallée du Rhône, ça passe très bien, un Saint-Joseph, un Hermitage, quelque chose comme ça, ou un Châteauneuf du Pape Blanc.
Et ce que vous aimez aussi, c'est un voyage en Polynésie pour finir ce troisième iconique. Et je finirai par une question subsidiaire. Quelle est la bouteille qui vous manque ?
Celle que je n'ai pas encore goûtée.
Celle qui vous fait rêver, peut-être. Ça donne des perspectives. Merci beaucoup, Philippe Forbrack, d'avoir été avec nous, président de l'Union de la Sommellerie Française. Merci d'avoir été dans Iconic Business. Dans un instant, les désirables de la semaine, notre sélection dans l'actualité du luxe. Tout de suite, l'Iconic Capsule. L'Iconic Capsule est cette boutique éphémère Dior en Chine. Elle est directement sculptée dans la glace. Eva Jaco.
Dior a installé une reproduction de son adresse mythique située au 30 avenue Montaigne. Ici, il s'agit d'une sculpture de glace située dans une station de ski en Chine. À l'intérieur, on retrouve les modèles iconiques de la marque, comme par exemple le sac Lady Dior, la veste Dior Bar ou encore le parfum Miss Dior. À quelques mètres de ce palais de glace se trouve un café Dior et une boutique en bois imaginée autour des collections hiver designées par les directeurs artistiques Maria Grazia Chiuri et Kim Jones. Et puis, pour ceux qui n'ont pas prévu de se rendre en Chine, un pop-up store virtuel est disponible sur le site internet de Dior. Dior Vibe vient compléter tous les écrins éphémères que la griffe dispose dans les villes du monde entier.
Iconic Business, le luxe by BFM Business. Audrey Maubert.
Les désirables de la semaine, tout ce qui nous a fait envie, séduit et intrigué ces derniers jours. Avec Marie Berthelon, cofondatrice et présidente de Rouvena, de la joaillerie circulaire. On va y revenir avec vous dans un instant. Bonjour.
Bonjour Audrey.
Nathan Cocampo, tout ce qui a attiré votre attention. Avant cela, je vous propose d'aller au cœur des matières, celles-là même qui serviront aux maisons de luxe. Reportage dans Iconic Business.
Nous sommes au salon Première Vision Paris dans l'espace Maison d'Exception dédié aux savoir-faire artisanaux rares. Ici, 26 ateliers issus de 5 pays exposent leurs techniques et savoir-faire exceptionnels, ce qui représente une mine d'or pour les maisons de luxe.
Ça intéresse les maisons de luxe parce que ça permet de faire des produits uniques, mais pas seulement. Ça permet aux maisons de luxe aussi de conserver ces traditions. Elles sont extrêmement sensibles à la défense de ces savoir-faire qui peuvent, qui contribuent en fait à faire une mode exceptionnelle, une mode rare et puis une mode extrêmement créative par l'innovation des matériaux qui sont utilisés.
Soit plumes ou encore matériaux durables, nous allons rencontrer trois ateliers qui utilisent des techniques ancestrales et innovantes. Authentique Materials valorise les matières naturelles inexploitées des grandes maisons de luxe. Leur dernière création, une version de la robe Paco Rabanne. Noémie Duménil, cofondatrice d'Authentique Materials.
La création, elle porte vraiment sur le matériau. En l'occurrence, là, l'objectif qui était demandé par Paco Rabanne, c'est de remplacer le matériau PVC par un matériau plus sustainable. Nous, notre métier, c'est de valoriser les gisements en fin de vie de nos clients. Et en l'occurrence, ils n'en avaient pas à nous proposer, mais donc on a proposé le coquillage. Nous, on est essentiellement orienté cuir sur un nouveau matériau qu'on va réutiliser, que le client va réutiliser. Et typiquement, la maison Chanel est rentrée à notre capitale au mois de mai dernier pour soutenir cette démarche.
Côté tissu, Janaïna Milero travaille la plume depuis 10 ans. Elle nous parle de sa dernière création.
J'ai réalisé des tissus notamment pour la maison Dior donc c'était une sorte de résille de plume pour Dior Haute Couture. J'ai travaillé notamment pour la maison Guerlain sur des décors de vitrines et aussi des décors de boutiques qui avaient vocation donc à présenter la dernière fragrance du Mont Guerlain, le Mont Guerlain Sparkling. Donc c'était des sculptures vraiment qui mêlaient plume et métal.
Autre innovation dans le domaine du textile, Sérissine a mis au point une nouvelle matière naturelle à base de soie, fabriquée par des vers à soie, qui file la fibre à plat et qui permet de s'adapter à plusieurs accessoires pour la mode.
Ici, plusieurs milliers d'acheteurs se sont succédés pour dénicher la perle rare qui saura construire avec eux les pièces remarquables de leur future collection.
Eva Jacquot, dans les désirables de la semaine, on poursuit avec ces infos Nathan Cocampo et cette nouvelle collaboration dans la gastronomie. Il y en a toutes les semaines.
Oui, le chef Sylvestre Warid s'associe avec la maison Gucci dans son restaurant étoilé Les Grandes Alpes à Courchevel. Maison de mode oblige, l'équipe de salle féminine porte désormais la combinaison en faille avec ceinture à la boucle G. Côté sommelier, là aussi, un costume de la maison Gucci, un restaurant qui allie donc la gastronomie aux pièces haute couture. Le menu expérience est à 395 euros. Et Audrey, je vous propose maintenant un yacht, Sealent 120 Explorer, 36 mètres de long, entièrement alimenté par énergie solaire. Et avec un petit plus, ce yacht possède un air d'atterrissage pour une voiture volante. Une voiture volante de 4 places qui, sur le papier, peut voler jusqu'à près de 300 km/h pendant une heure. Bon, il manque encore quelques certifications nécessaires. Mais le petit bonus, c'est Nemo, un sous-marin 2 places allant jusqu'à 100 mètres de profondeur. Le package est attendu pour 2024.
Ouais, ça ne s'arrête pas du côté des yachts et aussi du côté de Giorgio Armani où un yacht se dessine par ailleurs. Rimowa dévoile une collection capsule avec Palace. Là, la collaboration est un peu plus étonnante.
Une valise cabine moderne et atypique. Elle est le fruit d'une collaboration donc entre Rimowa, spécialiste du bagage de luxe depuis 120 ans, propriété d'LVMH et le label de skateboard britannique Palace. La valise aux finitions en argent est produite en seulement 500 exemplaires et en parallèle, une planche de skate en bois d'érable canadien est aussi en édition limitée. Objectif pour Rimowa, attirer une nouvelle clientèle plus jeune. Et on finit finir avec cette actualité dans les NFT. Vous le savez, les marques de luxe se positionnent de plus en plus sur ce domaine. Et c'est au tour d'Yves Saint Laurent d'enrichir à nouveau sa collection à l'occasion du lancement de sa campagne Black Opium avec Wunderman Thompson, une agence partenaire. L'ambition est à nouveau de pousser les clients à acquérir en parallèle de l'achat physique leurs produits en actifs numériques.
Oui, c'est toujours l'occasion de se réinventer et de prolonger l'expérience. Merci Nathan Cocampo. Avec nous, Marie Berthelon. On parle de Rouvena, de la joaillerie, mais pas n'importe laquelle. Vous avez fait vos classes chez Hermès et Cartier, comme ceux avec qui vous avez réveillé Rouvena. Pourquoi avoir choisi cette maison, une maison Second Empire ?
Bonjour Audrey, merci de m'inviter aujourd'hui. Je suis très heureuse de vous parler de ce projet car Rouvena a été relancé il y a tout juste 2 mois. On est une jeune maison avec un très ancien bagage. Alors effectivement, la joaillerie du Second Empire, elle n'est pas forcément très connue.
Non.
Elle n'est pas forcément très prisée ni très à la mode. Et en fait, en allant fouiller un peu dans ces joailliers du Second Empire, j'ai eu la joie de retomber sur ce nom, Léon Rouvena, qui en fait a été un des plus grands joailliers du Second Empire. Un homme assez extraordinaire, je vous parlerai un petit peu de lui, qui à sa façon a révolutionné le monde de la joaillerie de l'époque en l'emmenant vers l'ère industrielle.
C'était un habitué des expositions universelles, plutôt un audacieux.
Absolument.
Qui cassait les codes.
Qui cassait les codes, en tout cas, qui se poussait à les réinventer. Il a effectivement participé à la première exposition universelle qui a eu lieu à Londres, au Crystal Palace. Et ce que je trouve formidable dans son histoire, c'est qu'il est revenu en France en 1852 et que là, cet homme a ouvert la première manufacture de joaillerie au monde. En fait, c'est le point de départ du rayonnement mondial de la joaillerie française telle qu'on le connaît aujourd'hui. Et je trouve que ce moment est très fondateur. Et en fait, avec mes associés, on a eu envie de remettre en lumière ce nom endormi, faute de successeur.
Oui, c'est ça, faute d'héritier.
Exactement.
La success story a disparu à l'époque. On lui doit pourtant notamment une broche de lilas constellée de diamants et vendue à l'impératrice Eugénie
elle-même,
pour la petite histoire.
Elle-même. En fait, Léon Rouvena, dans sa manufacture, il ne s'est pas arrêté là. Il a ouvert ses portes, les portes de son atelier, et s'est mis à accueillir en fait des têtes couronnées du monde entier. Ça, c'est assez révolutionnaire aussi d'une certaine façon, parce qu'avant, les ateliers de joaillerie, c'était des tout petits endroits dans lesquels on n'accueillait pas. Là, les dignitaires du monde entier ont adoré cette expérience. Ils pouvaient venir avec leurs pierres, ils pouvaient voir la création avoir lieu sous leurs yeux. Et on revenait à accueillir des sommités d'Amérique latine, de Russie. Il a vendu pour le chat de Perse. Enfin, son histoire est assez formidable.
Il y avait déjà une belle histoire, donc le socle de l'histoire à raconter. Mm-hmm. Et en fait, vous êtes complètement en train de réinventer le processus avec des règles différentes.
Avec des règles différentes, vous avez totalement raison. Et on a passé beaucoup de temps, je dois dire, à se pencher sur comment inventer un business model complètement différent et comment emmener cette joaillerie qu'on aime tant vers l'ère de l'éco-joaillerie et vers la circularité que la mode embrasse énormément aujourd'hui, mais qui est finalement balbutiante, j'ai envie de dire,
oui,
dans le monde de la joaillerie.
Oui, c'est un peu timide. Alors, comment ça se concrétise chez Rouvena ?
Alors, chez Rouvena, en fait, la circularité, qui est un bien grand mot, c'est des matérialisations très concrètes. Donc, on commence par remettre en lumière un nom endormi. Ça, c'est très important. On s'appuie sur des archives et sur un patrimoine. Il se trouve que pendant le Covid, j'ai eu la chance de retrouver les archives de Léon Rouvena chez un petit bouquiniste parisien. Donc ça, c'est venu nourrir notre réflexion autour de cet ADN.
Les nouveautés, les créations.
Absolument, absolument, dont on s'imprègne et qu'on réinterprète, évidemment. Notre super directrice artistique, Sandrine Delage, s'est plongée dans ses dessins avec délice. Mais aussi concrètement, chez Rouvena, on utilise de l'or et de l'argent recyclé. Et puis, on fait une chose que personne ne fait aujourd'hui. On va utiliser des pierres anciennes exclusivement.
Mais vous allez les dénicher où ? On vous les apporte ? Vous les trouvez dans des coffres abandonnés ? Comment ça se passe ?
Alors, c'est une filière à construire parce que c'est une filière qui n'existe pas. Traditionnellement, en haute joaillerie, certaines pierres sont parfois réutilisées, mais personne aujourd'hui en joaillerie n'utilise de manière systématique ces pierres anciennes, alors qu'ils dorment effectivement dans les coffres des particuliers qu'on invite à venir chez nous, d'ailleurs, au 416 rue Saint-Honoré, à Paris, pour venir nous apporter les...
Une adresse particulière, on peut vraiment parler d'écrin.
Absolument, c'est un écrin assez unique, assez magnifique, dans lequel on aime accueillir des artistes. Ces pierres, on les trouve aussi chez les négociants, qui ont tous en fait des pierres un peu singulières qui ne rentrent pas dans les plans de collection des maisons traditionnelles. Et nous, c'est cette singularité qu'on va aller chercher justement et qui nous parle. On les achète aussi sur les maisons de vente, on achète aussi des démontées d'anciennes créations d'autres maisons de joaillerie. Après, c'est une aventure assez palpitante. On est accompagné pour ça par une grande experte avec qui je travaillais chez Cartier, qui nous a suivis dans cette aventure, qui est une gémologue renommée et qui nous aide à naviguer dans ce monde très intrigant et très complexe des pierres anciennes.
Et avec de la technicité et de la technologie d'aujourd'hui pour garantir la circularité, une blockchain qui enregistre de façon digitale l'ensemble des certificats d'authenticité qui vous permettent un sourcing et une traçabilité.
Exactement.
À part.
Il est fondamental lorsqu'on se positionne comme un grand joaillier, a fortiori lorsqu'on réveille un grand nom tel que Léon Rouvenat, une maison avec un grand héritage qui fait partie du patrimoine français, de pouvoir garantir ce que l'on propose. Donc évidemment, nos pierres sont toutes sélectionnées une par une par ce duo magnifique qui est notre acheteuse de pierres et puis notre directrice artistique. Et ensuite, toutes ces pierres sont évidemment certifiées et inscrites dans la blockchain. Alors, notre blockchain, elle est un peu particulière. Aujourd'hui, dans le monde de la joaillerie, tout le monde va chercher à comprendre d'où vient la pierre. Mm-hmm. Et c'est ce que j'appellerais la blockchain amont. Nous, en fait, on va s'attacher à dire de quand vient la pierre, pour aller montrer qu'elle est ancienne et pour l'accompagner dans ses vies futures. C'est un changement de paradigme assez intéressant et on ouvre la voie sur cette façon de travailler qui n'est pour l'instant taclée par personne.
Un éventail de prix, je dirais, entre 2000 et 20 000 euros pour le positionnement grossièrement.
Un peu
et
en dessous, je me permets.
En fait, on commence à 750 euros.
Bon, il y a donc un prix d'entrée.
Il y a un prix d'entrée,
ça peut, après, ça peut grimper. Et cette consécration, c'est avec ça que je terminerai avec vous, est le bolt des rubis, des aigues marines, entre autres. Et cette pièce cadenas inspirée des rosaces de l'époque, une version haute joaillerie lors de la Fashion Week haute couture, c'est la consécration.
Alors, c'est la consécration, je vous remercie de le dire.
De pouvoir la présenter.
C'est, en tout cas, exactement, c'est un grand moment de haute joaillerie. Ça a été l'opportunité d'accueillir chez nous, au 416 rue Saint-Honoré, tous ces clients, toutes ces personnes autour d'une expérience décomplexée et joyeuse, un peu à l'image de votre émission, j'ai envie de dire, autour de la joaillerie.
Le début d'une aventure Rouvenat avec Marie Berthelon, cofondatrice et présidente de Rouvenat de la joaillerie circulaire. Merci d'avoir été avec nous. Iconic Business, le luxe par BFM Business, exclusif, intemporel, mythique, responsable et déculpabilisé, toutes les semaines sur BFM Business et dès à présent sur le site et les réseaux sociaux.
Iconic Business, le luxe by BFM Business.